Chapitre 52, dans la chambre haute. Lorsque les disciples arrivèrent à Jérusalem, ils entrèrent par la porte orientale, qui était ouverte les jours de fête. Les maisons étaient silencieuses et plongées dans l'obscurité. Mais ils parcouraient les rues étroites éclairées par la lumière de la lune. Ils savaient qu'ils trouveraient leur frère dans la chambre mémorable où Jésus avait passé la dernière nuit avant sa mort. C'est là que les disciples avaient passé le sabbat en pleurant leur maître. Maintenant, ils n'avaient aucune envie de dormir, car des événements extraordinaires leur étaient racontés. À l'appel répété des deux voyageurs, des mains prudentes tirent les verrous de la porte. Ils entrent. Jésus, qui avait été leur invisible compagnon de route, pénètre avec eux dans la maison. Il trouve les disciples assemblés, et dans un état d'excitation. L'espérance et la foi se combattaient dans leurs esprits. Le rapport de Marie Magdeleine et de l'autre femme avait été entendu par tous les disciples. Mais quelques-uns étaient trop désespérés pour croire ce qu'elle disait. Pierre avait parlé avec une grande assurance et une grande ardeur de son entrevue avec le Seigneur ressuscité, ce qui avait fait une profonde impression sur les frères, dont la foi commençait à renaître. Lorsque les disciples d'Emmaüs entrèrent, apportant leur joyeuse nouvelle, plusieurs voix les accueillirent en disant, « Le Seigneur est vraiment ressuscité, et il est apparu à Simon. » Les deux disciples d'Emmaüs racontèrent comment le Seigneur leur avait ouvert les yeux, et leur avait expliqué l'enchaînement étroit des prophéties qui embrassent l'histoire depuis le temps des patriarches jusqu'à leur époque, annonçant tout ce qui était arrivé concernant leur Sauveur. Ceux qui étaient réunis écoutèrent leur récit dans le plus profond silence. Quelques-uns furent inspirés d'une nouvelle foi. D'autres y furent incrédules. Tout à coup, Jésus se trouve au milieu d'eux. Ses mains se lèvent pour les bénir, et il leur dit, « La paix soit avec vous. » Mais eux, tout troublés et tout épouvantés, croyaient voir un esprit. Et il leur dit, « Pourquoi êtes-vous troublés, et pourquoi s'élèvent-ils des pensées dans vos cœurs ? Voyez mes mains et mes pieds, car c'est moi-même. Touchez-moi, et regardez-moi. Car un esprit n'a ni chair ni os, comme vous voyez que j'ai. » En leur disant cela, il leur montra ses mains et ses pieds. Ils purent voir les mains et les pieds meurtris de leur maître. Ils reconnurent sa voix, qui n'était semblable à aucune autre. Mais comme ils ne le croyaient point encore, tant ils étaient transportés de joie et d'admiration, il leur dit, « Avez-vous ici quelque chose à manger ?» Et ils lui présentèrent un morceau de poisson rôti, et d'un rayon de miel. Et l'ayant pris, il en mangea en leur présence. La foi et la joie remplacèrent alors le doute et l'incrédulité, et ils reconnurent leur Sauveur ressuscité avec des sentiments qu'aucune parole ne peut exprimer. Alors Jésus leur expliqua à tous les Écritures, commençant par le premier livre de Moïse, et s'arrêtant particulièrement aux prophéties indiquant l'époque où ils étaient arrivés, et prédisant les souffrances de Christ et sa résurrection. Puis il leur dit, c'est là ce que je vous disais lorsque j'étais encore avec vous, qu'il fallait que tout ce qui a été écrit de moi dans la loi de Moïse, et dans les prophètes, et dans les psaumes, fût accompli. Alors il leur ouvrit l'esprit pour leur faire entendre les Écritures. Et il leur dit, c'est ainsi qu'il est écrit, et qu'il fallait que le Christ souffrît, et qu'il ressuscita des morts le troisième jour. Et qu'on prêcha en son nom la repentance et la rémission des péchés parmi toutes les nations, en commençant par Jérusalem. Or, vous êtes témoins de ces choses. Les disciples commencèrent alors à comprendre la nature et l'étendue de leur mission. Ils devaient proclamer au monde les vérités merveilleuses que Christ leur avait confiées. Les événements de sa vie, de sa mort, de sa résurrection, l'accord des prophéties avec ces événements, la sainteté de la loi de Dieu, les mystères du plan du salut, le pouvoir qu'avait Jésus de pardonner les péchés, ils devaient témoigner de toutes ces choses, et leur œuvre était de les faire connaître à tous les hommes, en commençant par Jérusalem. Ils devaient proclamer un évangile de paix et de salut par la repentance et la puissance du Sauveur. Au premier avènement de Christ sur la terre, l'ange annonça, « Paix sur la terre, et bonne volonté envers les hommes ». Lorsqu'il eut achevé sa vie sur la terre, il ressuscita des morts et, apparaissant pour la première fois à ses disciples assemblés, il s'adresse à eux par ces paroles bénies, « La paix soit avec vous. Jésus est toujours disposé à parler de paix aux âmes qui sont troublées par les doutes et la crainte. Ce précieux Sauveur attend que nous lui ouvrions la porte de nos cœurs, et lui disions, « Demeure avec nous ». Il dit, « Voici, je me tiens à la porte et je frappe, si quelqu'un entend ma voix et m'ouvre la porte, j'entrerai chez lui, et je souperai avec lui, et lui avec moi ». Notre vie est une lutte continuelle. Nous devons lutter contre les principautés et les puissances, contre des malins esprits et des ennemis qui ne sommeillent jamais. Nous devons résister aux tentations, et vaincre comme Christ a vaincu. Lorsque la paix de Jésus entre dans notre cœur, nous sommes calmes et patients dans les épreuves les plus pénibles. La résurrection de Jésus fut un exemple de la résurrection finale de tous ceux qui dorment en lui. Le corps ressuscité du Sauveur, sa démarche, l'accent de sa voix, étaient tout familiers aux disciples. C'est de la même manière que ressusciteront ceux qui dorment en Jésus. Nous connaîtrons nos amis, comme les disciples connurent le Sauveur. Quoiqu'il ait pu être estropié, malade ou défiguré pendant cette vie mortelle, pourtant dans leur corps ressuscité et glorifié, leur identité individuelle sera parfaitement conservée, et nous reconnaîtrons dans des visages rayonnants de la lumière qui resplendissait de la face de Jésus, les traits de ceux que nous aimons. La mort de Jésus avait jeté Thomas dans un complet désespoir. Sa foi paraissait s'être éteinte dans la nuit. Il n'était pas présent dans la chambre haute lorsque Jésus apparut à ses disciples. Il avait entendu les rapports des autres disciples, et avait obtenu des preuves nombreuses que Jésus était ressuscité. Mais une tristesse obstinée et une tenace incrédulité fermaient son cœur à toutes ces joyeuses nouvelles. Comme il entendait les disciples répéter le récit de la manifestation merveilleuse du Sauveur ressuscité, cela ne servit qu'à le plonger davantage dans le désespoir. Car si Jésus était réellement ressuscité des morts, il ne pouvait plus y avoir d'espoir qu'il établisse son royaume terrestre. Sa vanité était en outre blessée de ce que Jésus se fût révélé à tous ses disciples, sauf lui. Aussi était-il résolu à ne pas croire. Et pendant une semaine entière, il demeura dans ses mauvais sentiments, ce qui contrastait vivement avec l'espérance et la foi renaissante de ses frères. Il répéta souvent, durant cette semaine, lorsqu'il se trouvait avec ses frères, « Si je ne vois la marque des clous dans ses mains, et si je ne mets mon doigt dans la marque des clous, et si je ne mets ma main dans son côté, je ne croirai point. » Il ne voulait pas voir par les yeux de ses frères, ni avoir une foi qui dépendît de leur témoignage. Il aimait ardemment son Seigneur, mais la jalousie et l'incrédulité s'étaient emparées de son esprit et de son cœur. La chambre haute était la demeure d'un certain nombre de disciples, et chaque soir, ils s'y réunissaient tous. Or, un certain soir, Thomas se décida à se rendre auprès de ses frères. Car lors même qu'il ne voulait pas croire, il caressait une certaine espérance, qu'il ne s'avouait pas à lui-même, que ces bonnes nouvelles étaient vraies. Pendant que les disciples prenaient leur repas habituel, tout en repassant l'épreuve de la vérité sur laquelle se fondait leur foi, et que Jésus leur avait donnée dans les prophéties, Jésus vint, les portes étant fermées, et il fut là au milieu d'eux, et leur dit, « La paix soit avec vous ». Il censura ensuite ceux qui n'avaient point cru le témoignage de ceux qu'il avait vus. Puis, se tournant du côté de Thomas, il lui dit, « Mets ici ton doigt, et regarde mes mains, avance aussi ta main, et la mets dans mon côté, et ne sois plus incrédule, mais crois. » Ces paroles montraient qu'il avait lu les pensées et entendu les paroles de Thomas. Le disciple incrédule savait qu'aucun de ses compagnons n'avait vu Jésus depuis une semaine, et ne pouvait par conséquent avoir parlé à son maître de son incrédulité opiniâtre. Il reconnut dans la personne qui était devant lui, son maître qui avait été crucifié. Il ne voulut pas d'autres preuves. Son cœur tressaillit de joie, en voyant que Jésus était vraiment ressuscité des morts. Il se jeta aux pieds de son maître avec une profonde affection et une grande dévotion, s'écriant, « Mon Seigneur et mon Dieu !» Jésus accepta son hommage, mais le reprit doucement de n'avoir pas cru. « Parce que tu m'as vu, Thomas, tu as cru. Heureux ceux qui n'ont pas vu, et qui ont cru. » Jésus montre ici à Thomas que sa foi eût été plus acceptable pour lui, s'il avait cru ses frères, et s'il n'avait pas refusé de croire jusqu'à ce qu'il eût vu Jésus de ses propres yeux. Si le monde suivait l'exemple de Thomas, personne ne croirait à salut. Car tous ceux qui reçoivent maintenant Christ, le font sur le témoignage d'autres hommes. Bien des gens, qui ont une foi faible et vacillante, pensent que s'ils avaient les preuves que Thomas avait reçues de ses compagnons, ils ne douteraient point comme lui. Ils ne pensent pas que non seulement ils ont cette preuve, mais que d'autres témoignages affluent de toutes parts. Bien des gens qui attendent, comme Thomas, que toute cause de doute soit dissipée, peuvent ne jamais voir leur désir accompli comme il le vit. Ils se renfermeront peu à peu dans leur incrédulité, jusqu'à ne plus pouvoir discerner la valeur des preuves en faveur de Jésus, et, comme les Juifs sceptiques, le peu de lumière qu'ils ont, s'éteindra dans les ténèbres accumulées autour de leur esprit. Rejeter les preuves simples et conclusives de la vérité divine, durcit le cœur et aveugle l'entendement. La précieuse lumière étant négligée, elle s'efface entièrement de l'esprit, qui n'a aucun désir de la recevoir. Jésus, dans sa manière d'agir à l'égard de Thomas, donna à ses disciples une leçon concernant leur conduite envers ceux qui douteraient de la vérité religieuse, et feraient parade de leurs doutes. Il n'accabla point Thomas de reproches, ni n'entra en controverse avec lui. Mais, avec une condescendance et une douceur remarquables, il se révéla à ce cœur plein de doutes. Thomas avait fait un acte déraisonnable en dictant les seules conditions de sa foi. Mais Jésus, par sa considération et sa généreuse affection, brisa toutes les barrières qu'il avait élevées. Une controverse obstinée dissipera rarement l'incrédulité, mais la mettra sur la défensive, où elle trouvera un nouveau soutien, et de nouvelles excuses. Jésus, révélé dans son amour et sa miséricorde, comme sauveur crucifié, arrachera à bien des bouches obstinées l'aveu de Thomas, « Mon Seigneur et mon Dieu ».